Tous contre l'impérialisme mondial. Toutes les races. Une seule couleur, rouge.
Jacques Prévert et le groupe Octobre.
On a fondé un groupe de théâtre. Plus exactement, les gens l'ont appelé un groupe de théâtre. Alors que pour nous, c'était un groupe d'agitation, de propagande, d'agit-prop. C'est-à-dire que, au lieu de faire une distribution de tracts dans la rue, nous faisions une distribution de tracts oraux. On voulait faire la révolution pour après-demain. Et nous avons rencontré Jacques Prévert. Et de ce jour, Jacques a écrit à la commande.
1932, Raymond Bussière, qu'on vient d'entendre, et quelques activistes du groupe bien nommé Prémisse viennent demander ses services à Prévert. Ils sont communistes et lui, s'il a une réputation, outre celle de ne rien faire, c'est plutôt d'être anard. Le petit groupe de camarades que cette rencontre va irradier pense que si le monde va mal, le théâtre doit aller comme il doit. Quand on dit théâtre, c'est un vieux mot canonique qu'il faut subvertir. Octobre va pratiquer en même temps le court-métrage, la chanson et bien sûr le chœur parlé, qui est le genre de prédilection de tous les groupes d'intervention de l'époque, ceux par exemple qui sont regroupés dans la Fédération du théâtre ouvrier de France. Quitter le jardin des délices bourgeois et entrer en polémique avec un présent lourd d'orage. Mais comment les contemporains pourraient-ils considérer d'un même regard le double danger que représentent à cette époque les deux puissances consommatrices d'hommes, l'Allemagne nazie et l'URSS de Staline, qui feront d'ailleurs alliance en 1939. Le groupe Octobre, quant à lui, veut croire que le grand soir est pour demain ou après-demain, et même s'il n'est pas composé de prolétaires, c'est autour de la figure de l'ouvrier révolutionnaire qu'il compose son répertoire, tour à tour émouvant et joyeux. C'est de lui que, dit-il, viendra le salut. Quand le groupe se dissoudra en 36-37, beaucoup de ses membres ne croient plus en des lendemains aussi joyeux, et Prévert n'est pas parmi eux le moins lucide.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Carole Horouet, bonjour à vous.
Bonjour Jean Lebrun.
Vous avez publié X livres sur Jacques Prévert, Paris Prévert, chez Paris Gramme, une vie de Prévert aux nouvelles éditions Jean-Marie Place. Quand vous arrivez au 116 de la Radio Nationale, qu'est-ce que ça évoque pour vous?
Oh bah évidemment, je pense à l'envol de Prévert par la fenêtre du studio en 1948.
C'était au 116 Champs-Élysées. C'était pas notre adresse actuelle. Et puis, les studios avaient des fenêtres, et vous ne courez aujourd'hui, maintenant qu'ils sont murés, aucun danger. Alors, commençons en 1932. Je disais, il avait la réputation de n'avoir pour métier que de ne rien faire. C'est vrai?
Oui, c'est vrai, et il le revendiquait d'ailleurs. Mais en fait, il ne faisait pas tout à fait rien. C'est-à-dire que d'une part, en 1932, c'était un jeune homme qui avait 32 ans, puisque Prévert est né en 1900, et qui engrangeait beaucoup depuis sa plus tendre enfance. Prévert, ça a été une éponge, d'abord dans la rue quand il était petit, parce qu'il n'aimait pas véritablement l'école, sauf quand elle était buissonnière, donc il traînait dans les parcs, dans les cafés, avec son père aussi. Et puis après, il a continué à engranger avec les surréalistes, notamment de 1924 à 1930, donc il ne faisait pas rien, il apprenait. Et il recevait beaucoup de choses. Il apprenait aussi à lire grâce à Adrienne Monnier à la librairie de la rue de l'Odéon. Et il avait beaucoup de choses en lui, beaucoup de rage, qui allait finir justement par sortir.
Mais on dit qu'il parlait par association, mais les associations, il les disloquait. Alors est-ce qu'on peut faire une association entre l'éponge et le coup de poing chez lui?
Exactement. Prévert, c'était une éponge qui prenait, qui absorbait. Et ensuite, c'était aussi, on le sait moins, le spécialiste du coup de boule. C'était celui qui avait aussi ce courage physique d'aller à la castagne. Et c'était effectivement cette association-là.
32, le grand effondrement économique de 29 a fini par se répercuter de proche en proche jusqu'à atteindre la France. Et il éclaire d'un jour cruel les vrais motifs des conduites humaines.
Ils se sont rendormis, bercés par le ronron des machines à écrire de la Société des Nations.
Ça ne fait pas beaucoup de bruit dans le monde, une malheureuse petite bombe d'hydravion.
Et le canon qui tonne en Chine ne fait même pas trembler la suspension du salon.
Comme c'est loin la Chine, comme c'est loin, comme c'est loin. braves gens, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles.
Dormez, braves gens. Dormez.
Mais...
Crac ! Crac ! Crac !
Le Figaro, les bandes de l'orchestre, ils le
font !
Les braves gens sont debout, livides, au bas du lit.
Qu'est-ce que vous dites ? Je suis mal réveillé.
La bourse de New York va fermer.
Câblé !
Comme c'est prêt, New York.
Câblé !
Comme c'est prêt.
Câblé !
Câblé ! Câblé ! Câblé ! Câblé !
Oh, ça va mal au pays de la prospérité. Ford demeure maintenant au rez-de-chaussée.
S'il se jette par la fenêtre, on pourra peut-être le sauver.
Ça va mal.
Le bourgeois pleure des larmes et grince des dents. Il devient de plus en plus méchant.
Comme ce grand homme mythologique qui n'était sensible qu'aux talons. Le bourgeois n'est sensible qu'au fric, même quand on lui joue du violon.
Alors avant que ce texte sous forme de cœur parlé ne soit donné par Prévert au groupe Octobre, il a fallu que des activistes du groupe de choc Prémisse, c'est ainsi qu'il se nommait, en 1932, viennent le trouver. Cela disait, il faut faire quelque chose, il faut faire du théâtre d'intervention.
Il faut faire de l'agit-propre, de l'agitation propagande. En fait, Prémisse, les groupes, enfin le groupe Prémisse est constitué d'un certain nombre de membres, notamment Lazare Fouchman, qui va trouver Prévert sur le conseil de Paul Vaillant-Couturier et de Léon Moussinac.
Militant communiste.
Oui. Ils vont lui demander de faire autre chose. Et ça, c'est typiquement Prévert, toujours faire autre chose. Et il lui demande d'aller au-delà du sempiternel cœur parlé, d'étoffer ce théâtre-là. Et c'est ce que Prévert va faire.
Sous forme
Brio.
De détonation, vous organisez, permettez-moi cette association un peu disloquée, un colloque Prévert à Cerisy-la-Salle, au château. Et ça s'appelle détonation poétique. Les premières interventions du groupe Octobre, c'est, non pas l'été sur la pelouse de Cerisy comme votre colloque au mois d'août, non, c'est un peu partout, dans les cafés, sur les parvis des usines.
Dans la rue, dans les cafés, dans les usines en grève, dans les lieux voilà, où il se passe quelque chose, et toujours du côté des ouvriers.
Alors on a retenu Vive la presse, les titres les plus divers rendent compte de leurs propos malfaisants ou complètement insipides aux capitalistes avec un grand C, puis à la bataille de Fontenoy qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd.
Exactement, très importante la bataille de Fontenoy. C'est une pièce que Prévert écrit en octobre 32 et qui est présentée pour la première fois en 1933 au deuxième congrès de la Fédération du Théâtre Ouvrier. C'est une pièce qui est violemment opposée à la guerre et il y a cette fameuse réplique « Soldats de Fontenoy, vous n'êtes pas tombés dans l'oreille d'un sourd » qui a évidemment énormément marqué et qui a notamment interpellé le jeune Marcel Carnet qui, en 1936, lorsqu'il cherche un scénariste, repense à cette remarque et va trouver Prévert.
Mais il y a aussi cette autre phrase dans la bataille de Fontenoy. « Soldats de Fontenoy, le soleil d'Austerlitz vous contemple. » C'est toujours fécond, l'anachronisme. Surtout quand il est prononcé par un personnage qui est réel, qui a eu une existence historique. Là, c'est Poincaré. Dans la bataille de Fontenoy, il n'y a que des personnages réels.
Oui, quasiment. Quasiment. Oui,
c'est-à-dire
oui.
Déroulède, Édouard Herriot, Poincaré, c'est un des principes de la détonation politique. Mars 1933, peu de temps donc après la fondation du groupe, une grève éclate à l'usine Citroën de Saint-Ouen, puis elle fait tache d'huile dans tout le groupe, qui est alors à son apogée. Son nom clignote tous les soirs sur la Tour Eiffel.
C'est la lanterne du bordel capitaliste. Avec le nom du taulier qui brille dans la nuit. Citroën, Citroën, c'est le nom d'un petit homme. Un petit homme avec des chiffres dans la tête. Un petit homme avec un drôle de regard derrière son lorgnon. Un petit homme qui ne connaît qu'une seule chanson. Toujours la même. Bénéfice net. Une chanson avec des chiffres qui tournent en rond. Et le voilà qui se promène à Deauville. Le voilà à Cannes qui sort du casino. Le voilà à Nice qui fait le beau sur la promenade des Anglais avec un petit veston clair. Beau temps aujourd'hui. Le voilà qui se promène, qui prend l'air. À Paris aussi, il prend l'air. Il prend l'air des ouvriers. Il leur prend l'air, le temps, la vie. Et quand il y en a un qui crache ses poumons dans l'atelier, ses poumons abîmés par le sable et les acides, il lui refuse une bouteille de lait. Qu'est-ce que ça peut lui foutre, une bouteille de lait? Il n'est pas laitier, il est Citroën. Il a son nom sur la toux, il a des colonels sous ses ordres, des colonels gratte-papier, garde-chiurme, espions. Les journalistes mangent dans sa main, le préfet de police rampe sur son paillasson. Citron, citron, bénéfice net, millions, millions.
Ça, c'était la voix de Prévert, mais sur la fin de sa vie, en 1974, je rappelle qu'il est mort le 11 avril 1977, comment c'était joué, puisque ça a été joué pour la première fois sur le parvis de Citroën? Il y avait de la mise en scène, j'ai entendu qu'on entendait même parfois le râteau du croupier quand était évoquée la présence d'André Citroën. Exactement. Dans les casinos de la Côte d'Azur.
Oui, il y avait de la mise en scène, mais une mise en scène qui était faite toujours dans l'urgence, parce que Prévert, on lui commandait ses textes, et ce texte lui a été commandé d'ailleurs par les grévistes, donc il écrivait très vite, et les acteurs devaient s'en emparer et les jouer très rapidement, donc c'était souvent aussi de l'improvisation, mais tout le monde s'impliquait, et tout le monde était véritablement dans le texte à dire, donc il y a ces bruits, il y a ces sons, il y a ces cris. Et Prévert, d'ailleurs, souvent jouait des petits rôles dans ces textes du groupe Octobre.
Peu après, mieux préparé, le départ pour l'URSS. Avec d'autres groupes de la fédération que vous citiez, le Théâtre Ouvrier de France, des groupes qui portaient des jolis noms, d'ailleurs, les Blues Bleus.
Exactement.
Et d'autres encore. Vous avez, je crois, un témoignage sur le séjour sur le bateau.
Oui,
c'est un bateau soviétique qui emmène les différentes troupes qui vont jouer aux Olympiades de Moscou. L'un des plus fervents communistes du groupe Octobre, c'est Jean-Paul Le Chanois.
Oui. Du 18 au 23 mai 1933, ils sont sur le bateau. Et c'est vrai qu'on a assez peu d'informations précises sur ce bateau. On sait qu'ils répétaient les pièces. Et dernièrement, j'ai retrouvé des cartes et un journal intime de Jean-Paul Dreyfus, Le Chanois. Et je voulais vous lire un court extrait qui donne vraiment une ambiance, l'atmosphère qui règne sur le bateau. « Le départ de Londres s'est bien passé et la descente de la Tamise est superbe. Nous sommes magnifiquement bien sur ce bateau. On mange à 9h, 1h, 4h et 7h. Pain beurre était à discrétion. Ce soir, il y a eu du poulet. Une grande gaieté règne. Il n'y a plus là des matelots, des officiers, des femmes de ménage et des serveuses. Les liens de différence sociale étant déjà détruits chez tous ces jeunes gens. Tous travaillent et s'instruisent. Au hasard, on trouve sur leur table de chevet des traités de mathématiques, physique, chimie, des livres d'art et de philosophie, beaucoup de livres sur l'art. Demain, les marins nous ont demandé de faire une fête à bord. Tout va bien. »
Ça, c'est un inédit nous proposez, Carole Horway. Ici, un extrait d'un documentaire de France 3, les colporteurs du Front populaire, et le témoignage de Jeanne Fischmann, qui était aussi sur ce bateau.
Nous donnions là la bataille de Fontenoy, qui a été reçue, mais vraiment, il y avait des scènes qui auraient pu être incompréhensibles, étant donné qu'on s'adressait à des étrangers. Ils ont mieux reçu ça, je dois dire, que certains de nos compatriotes en France. On a été assez étonnés. Et on a donné aussi le chœur Citroën, qui avait aussi très bien marché. Alors ça, c'était un chœur qui avait des répercussions naturellement, puisqu'il y avait les grèves Citroën. C'était pas par hasard qu'on donnait le chœur Citroën. Et il y avait également un autre chœur, c'était une œuvre de Tchimoukov, Les Nègres de Scottsboro. C'était une affaire qui avait lieu en Amérique, une affaire épouvantable. On accusait les pauvres Noirs de crimes qu'ils n'avaient pas commis. Alors naturellement, on a participé, nous, à ce mouvement de protestation.
Ne laissez pas vos frères noirs aller sur la chaise électrique. Il y a des hommes blancs, blancs comme le pain qu'ils ne mangent pas, blancs, pâles, blêmes. Il y a des hommes noirs, noirs comme la boue des chaussures qu'ils cirent, noirs. Puis après, je vais pas tout vous lire, je vais vous lire la fin. Serrez les rangs, serrez les poings, un assassinat se prépare. Tous contre l'impérialisme mondial, toutes les races, une seule couleur, rouge.
Alors, ils ont vu de près la prise du pouvoir par Hitler, puisqu'ils font escale aller-retour à Hambourg. Ils ne voient pas grand-chose de l'URSS, parce qu'ils sont trimballés en quart de clubs cheminots, en association ouvrière. Jacques Prévert remarque quand même que les toilettes dans les usines ne sont pas en meilleur état que les toilettes de Citroën. Et au retour, il y en a qui sont déçus, et d'autres qui, comme Le Chanois, sont dévots.
Oui, pour Prévert, c'est difficile à dire avec grande précision parce qu'il ne s'est jamais livré. Hein. C'est quelqu'un qui tergiverse peu, donc il ne s'est jamais véritablement livré. Mais on sent effectivement, déception, le terme est peut-être un peu fort, mais en tout cas une réalité différente qui est quand même apparue à lui.
En tout cas, la proclamation continue d'être faite en cette année 1933 de l'impératif du pacifisme. On va entendre ce qui va devenir un peu l'hymne du groupe Octobre, dont la musique est de Raymond Bussière, Guy Bessière. Et dont la musique est de Guy Bessière et dont l'interprétation ici est faite par Catherine Sauvage. C'est un disque Canetti. Canetti a fait beaucoup pour Prévert, enregistré évidemment plus tard. Et ça, c'était une chanson qui était interprétée dans des fêtes du parti aussi.
Oui, c'était un peu l'hymne du groupe Octobre et dans des fêtes du parti de temps en temps, je crois, oui.
Et quand, par exemple, les sympathisants partaient comme conscrits pour le service militaire.
Marche ou grève, marche ou grève, marche ou grève, où allons-nous? Nous allons dans l'or, on a besoin de nous, nous on est du sud, pourquoi y allons-nous? Nous allons dans l'or parce qu'il y a des grèves. Marche ou grève, marche ou grève, marche ou grève. Toi, tes vignerons dans le midi, et c'est dans l'or qu'il y a la grève. Si on te laissait dans ton pays, et qu'on te donne l'or de tirer, tu ne tirerais pas sur ton père. Moi, je suis pêcheur dans le Finistère, explique-moi pourquoi je tirerais. Sur un mineur du Pas-de-Calais, tous les travailleurs sont des frères, faut pas nous laisser posséder. Rien à faire, rien à faire, s'il faut tirer sur nos frères. On refuse pas de tirer, on peut pas tirer, on peut pas fuser, fusiller, boucher, la gâche est trouillée, les cartouches mouillées. Rien à faire, rien à faire, rien à faire. Yeah.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Le groupe Octobre et Jacques Prévert, nous sommes avec Carole Auroy qui a publié nombre de livres sur Jacques Prévert, récemment un Prévert Paris, une vie de Prévert aussi aux nouvelles éditions Jean-Michel Place. Alors ils sont combien là en 1934? Nous sommes maintenant en 1934 au groupe Octobre.
Oh, bonne question, je ne les ai pas comptés, mais ils sont nombreux. L'acteur un peu phare, c'est quand même Raymond Bussière. Il y a bien sûr Marcel Duhamel, qui était un proche de Prévert.
Le futur fondateur de la série noire.
Exactement, titre soufflé par Prévert, d'ailleurs. Il y a aussi tous ceux que Prévert a ramenés du cinéma. Je pense à Paul Grimaud ou à Yves Allégret, qu'on n'a pas eu l'occasion de citer jusqu'à présent. Et puis, quand ils rentrent de Moscou, il y a un autre acteur important qui les rejoint, c'est Maurice Baquet. Également.
Et puis, vous parlez du cinéma, Margot Capelier, qui va jouer un grand rôle dans le cinéma d'après-guerre et qui sera la script de Prévert. Elle arrive aussi en 1934, où le paysage politique change. Émeute d'extrême droite, février 1934, le gouvernement investi au Palais Bourbon tombe, un gouvernement d'union nationale est nommé, et enfin les gauches, jusqu'ici extrêmement divisées, comme elles l'avaient été en Allemagne, change de stratégie, avec la bénédiction enfin de Moscou, et il commence à y avoir des convergences, on parlera bientôt de front commun. Les convergences, elles peuvent aussi se faire voir sur le terrain. Je voudrais vous faire entendre le témoignage de Francis Lemarque. Avec son frère, ils formaient un autre groupe qu'Octobre.
Les frères Marc, qui là participaient au groupe Mars de Sylvain Hitkin.
Et le groupe Mars va, il est très proche du PC aussi, il va interpréter, comme le groupe Octobre, un texte de Jacques Prévert dès le 14 juillet 1934.
Et on choisissait dans les beaux quartiers, dans ce que nous considérions comme des quartiers snobs, du côté des Champs-Élysées, un bal très, très animé, plein de danseurs, et on regardait, et puis entre deux danses, tout à coup, on était une quinzaine de copains, on entonnait « Amusez-vous, faites les fous, la vie passera comme un rêve !» Alors naturellement, tout le monde s'agglutinait autour de nous, et quand on sentait qu'on avait bien capté l'attention de ce public, on leur balançait un cure-parler de Jacques Prévert. Alors ça commençait « Camarades, écoutez-nous, aujourd'hui, c'est le 14 juillet. Aujourd'hui, vous avez le droit de danser. Demain, c'est le 15 juillet, le terme. C'est la fête nationale pour les propriétaires. Passez la monnaie. On ne danse pas souvent. Nous dansons devant le buffet. Les huissiers emportent les buffets. On ne sait plus sur quel pied danser.
Alors, un peu toujours sur le même thème de la détonation poétique, comme vous dites, Carole Orway, de la provocation, ils vont aller faire des 14 juillet à Saint-Cyr-l'École, dont ils
Exactement.
Imaginent que, vu le nom, c'est extrêmement réactionnaire.
Oui, et Prévert va être déguisé en abbé, d'ailleurs, ce jour-là.
1935, le Front commun, qui va devenir le Front populaire, s'établit. Et en même temps, à la fin de l'année 35, il y a une baisse de régime du groupe Octobre, qu'on peut expliquer comment ?
Une baisse de régime, peut-être, mais en tout cas une sorte de migration aussi vers le cinéma. C'est-à-dire que certes, les pièces vont être moins nombreuses et puis le groupe Octobre va s'arrêter en 36 ou en 37. Mais fin 35, c'est aussi le moment où Prévert écrit Le crime de Monsieur Lange, qui va être réalisé par Renoir. Et dans ce film... on va retrouver toute la bande du groupe Octobre. Alors, on va nous présenter un peu comme une sorte d'entomologiste, une communauté ouvrière qui habite sur une cour intérieure à Paris. Et il y a à la fois des typographes et des blanchisseuses. Et c'est vraiment un film qui rencontre de l'esprit d'une époque, de l'espoir suscité justement par cette union. Et Le crime de Monsieur Lange, c'est un film du Front populaire, mais c'est un film du groupe Octobre aussi. Et Prévert vient avec toute sa bande.
Et en mai 1936, quand éclatent les grèves après le scrutin qui a porté au pouvoir le Front populaire, le groupe Octobre ne peut pas ne pas en être. Voici Maurice Baquet, le violoncelliste extraordinaire que vous citiez.
C'est une grève comme on n'en a pas vu souvent, et le patronat grince des dents. Les ouvriers occupent les chantiers, les usines. Les mineurs couchent dans leurs mines. Les garçons épiciers campent chez Félix Potin. Et ça dure des jours et des nuits. Et les grévistes dorment, ils ont des rêves. Mais pour les gros, c'est l'insomnie. Pour le capital, c'est la mauvaise nuit. De sa fenêtre, le capital voit ses usines occupées par les hommes des taudis. Il voit les drapeaux rouges flotter. Et le tricolore aussi. Tout se passe très bien. Aucun incident. Le calme est impressionnant. Il ne manque pas un boulon chez Renault, pas une pompe à vélo chez Peugeot, pas un bouton de guêtre chez Raoul, pas un jambon chez Olida. Et l'on raconte même qu'aux galeries Lafayette, une vendeuse du rayon Layette a trouvé par terre une épingle de sûreté et qu'elle l'a rapportée au rayon mercerie. L'ordre, le calme, la correction, pas le moindre incident. C'est inquiétant.
1936, c'est pour vous aussi l'année du plus beau texte, peut-être, à vous entendre, du groupe Octobre.
Oh, je ne sais
pas
si
c'est le plus beau,
j'ai toujours du mal à choisir, mais le Tableau des Merveilles, oui, qui est une adaptation très corrosive de Cervantes par Prévert, est un texte absolument magnifique et qui est répété dans des conditions incroyables, puisqu'il est mis en scène par Jean-Louis Barrault, répété dans son grenier, cette rue des Grands Augustins, là où Picasso va peindre Guernica.
Et où la chambre des huissiers vient de confisquer cet ancien atelier. On ne sait pas quel sera son sort. Espérons que ce ne sera pas celui d'un hôtel de luxe. Ça n'aurait pas plu à Prévert et à Barreau, pardonnez-moi. D'autres villes, les petites, ça se passe en Espagne. C'est le préfet qui regroupe, qui reçoit un groupe de théâtre ambulant. Mais cette ville est peuplée de gens heureux. Nous mangeons régulièrement. Les gens heureux n'ont pas d'histoire.
C'est difficile d'enchaîner après ça.
Et alors, qu'est-ce qu'ils font, les comédiens ?
Les comédiens, moi ce que j'aime beaucoup aussi dans ce texte, c'est ce rapport à la musique et c'est ces comédiens qui vont jouer cette musique vraie, crue, qui va plaire aux gens du peuple. Et...
Oui, mais attendez, ils jouent une musique que les notables considèrent comme une musique de cimetière, de terrain vague, une musique de misère.
Oui, mais on est toujours dans cette antithèse, dans cette opposition, dans cette confrontation chez Prévert pour faire sens, justement.
Et survient et plus, un casseur de pierre.
Plus encore dans le Tableau des Merveilles.
Un casseur de pierre qui dit que c'est pas une vie de casser les pierres. Tenez, on va écouter une adaptation d'une chanson de Prévert très proche par Jean Guidoni, les disques Canetti qui font beaucoup pour Jacques Prévert, ont publié un dossier de deux CD avec des interprétations contemporaines.
À force de faire des heures supplémentaires, il vieillissait. À 40 ans, il en a eu 60. C'est à cet âge-là qu'il s'est laissé glisser
Quand on est retourné du cimetière, chez nous le gaz était coupé. Car avec l'argent qui restait, l'argent qu'avait laissé le père, on avait dû payer sa bière et aussi acheter de quoi manger. Et comme alors c'était l'hiver, on était dans l'obscurité. Moi, j'ai allumé 2 bougies. Il y avait mes 2 frères qui pleuraient, et le plus petit qui s'endormait, et la mère qui parlait du père et qui disait: est-ce que c'est une vie de vivre comme on vit? Pourquoi faire cette vie d'enfer? Pourquoi se laisser faire?
1936, c'est cependant la fin. Il y aura un sursaut en 1937 du groupe Octobre. Alors on peut expliquer ça par des difficultés financières. Aussi parce que les membres du groupe sont aspirés par leurs activités professionnelles de plus en plus absorbantes.
Oui, ils trouvent, grâce à Martial Duhamel notamment, tous peu à peu des emplois. Prévert, lui, va se mettre à écrire très très activement pour le cinéma, parce que à partir de 1936 jusqu'en 1946, c'est vraiment sa décennie de cinéma, notamment avec Marcel Carné, et puis ça va commencer avec lui, avec Génie en 1936. Donc il y a ses membres qui partent un peu chacun de leur côté, et puis il y a évidemment la guerre d'Espagne qui est un tournant. Certains partent dans des brigades, d'autres non. Et c'est Maurice Baquet qui explique très bien que c'est la fin d'une certaine une joie, d'une certaine insouciance, et qu'il y a pour la première fois une peur, une psychose du chômage qui va s'instaurer. Donc.
Mais est-ce qu'on peut aller un peu plus loin sur le rôle de la guerre d'Espagne, du durcissement des différents camps plus tard, en 1940, d'ailleurs non loin de la frontière espagnole, quand il sera en exode à Jurançon. Il a eu cette parole, Prévert: nous avons parlé de jardins suspendus, mais vous, vous en étiez déjà aux forteresses volantes. Le pacifisme n'était plus de circonstance.
Aussi parce que ce sont 2 vers extraits d'un long texte, parce que pour Prévert, le pacifisme, il est quand même toujours de circonstance, jusqu'à la fin, dans tous ses actes et dans tous ses...
Et quant à Moscou, après les procès de Moscou qui ont accablé d'anciens dirigeants bolcheviques choisis comme bouc émissaire par Staline, il lui est arrivé quand même de demander une enquête internationale. Il n'était plus sur les mêmes positions que le Parti communiste.
Mais il a toujours gardé ses distances avec le Parti communiste. On ne l'a pas dit jusqu'à présent, mais il a toujours refusé de prendre sa carte au Parti communiste.
Et c'était pourtant le groupe Octobre. Vos livres, on retrouve toutes les indications les concernant, ainsi que toutes les publications de cet anniversaire Prévert 77-17 sur notre site. L'émission a été préparée par Franck Olivard avec Florent Layani à la technique et Gaëtan Colli à la réalisation.